chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, axé sur l'actualité et des faits de société. Vous écoutez ce programme sur les ondes de nos 52 radios et 7 télévisions partenaires qui diffusent nos contenus dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention et la gestion des catastrophes au Niger, cas des inondations. Ces dernières années, plusieurs départements et communes du Niger enregistrent des cas d'inondations, notamment pendant la saison des pluies. L'accumulation des eaux de ruissellement suite à de fortes précipitations sont entre autres les causes principales. En 2021, c'est un rappel, le Niger a connu des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans le pays, ayant affecté plus de 250 000 personnes dans 47 départements. Bilan, 77 décès, des pertes de biens, des récoltes et bétail emportés, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Niger, OCHA, publié en novembre 2021. Qu'est-ce qui est à la base des inondations au Niger? Quels sont les impacts sur la vie des concernés? Comment sont pris en charge les sinistrés et par qui? Est-il possible de prévenir ces inondations? Quelles sont les actions de prévention de l'État et partenaires? Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nos invités vont tenter de répondre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Tarey Daouda, jeune volontaire du Niger, de M. Ali Yaro, du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La protection civile a été invitée, mais n'a pas pu envoyer de représentants. Bonsoir d'être avec nous. Je suis Rafika Attaher à la modération de ce forum. L'inondation fait partie des catastrophes naturelles qui causent le plus de dégâts au Niger. Elle se situe en deuxième position des catastrophes naturelles après la sécheresse selon le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL. Comment est-ce que vous définissez une inondation, Monsieur Yaro?
L'inondation, c'est une catastrophe naturelle, l'une des plus récurrentes d'ailleurs au Niger, qui est dû à la saison aux écoulements d'eau. Au Niger, on connaît deux types d'inondations. L'inondation pluviale, qui est provoquée par la saison de pluie, et puis l'inondation aussi fluviale, celle de la crue du fleuve Niger.
Lesquelles sont les plus fréquentes?
Voilà, vraiment les plus fréquentes, c'est l'inondation pluviale.
Monsieur Tarey, selon vous, est-ce que les hommes jouent un rôle particulier dans les risques d'inondation? Est-ce qu'ils favorisent ou non ces inondations?
Donc, par rapport à la responsabilité des hommes sur les éventuelles inondations, moi, je dirais que oui, l'homme peut être entièrement responsable d'ailleurs de cette situation d'inondation, parce que c'est l'homme qui vit, c'est-à-dire autour de là où l'eau passe. Donc, il peut favoriser en fonction de ses actions, en fonction de ses faits, certains dérèglements de la fonctionnalité ou du ruissellement de ces eaux-là. Donc, je parle dans ce sens par rapport à de verser les déchets dans le fleuve, de laisser le fleuve ensablé, et beaucoup d'autres situations qui peuvent favoriser ces fléaux.
Comment expliqueriez-vous les inondations de ces dernières années?
Par rapport aux inondations de ces dernières années, nous connaissons tous aujourd'hui la situation dans laquelle notre fleuve je prends l'exemple du fleuve Niger, le lieu du fleuve est tellement ensablé qu'il ne peut plus contenir l'eau qu'il est censé contenir. Là, je parle de toutes les deux situations, de l'inondation fluviale et de l'inondation de la crue.
Pour revenir sur la situation de 2020, Monsieur Yaro, est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation?
Il est difficile en 2020, on n'aurait pas évité parce que c'est naturel, mais peut-être on aurait pu atténuer si un certain nombre de mesures ont été prises en amont. Mais avant ça, ce que je voudrais ajouter par rapport aux inondations au Niger, vous savez, l'État du Niger arrivait à comprendre que l'une des catastrophes la plus récurrente qui fait plus mal à nos populations, c'est les inondations, malheureusement. Et donc ça a amené l'État à dire, bon, je vais créer un ministère à qui je vais dédier la gestion des inondations. Mm-hmm. Quand bien même c'est multi-acteurs, mais qui va assurer le lead. Mm-hmm. Comme ça permettra de voir plus clair et de gérer cette affaire des inondations de manière très responsable. Et donc pour ce faire, le ministère de l'Action humanitaire élabore un plan de contingence inondation. Ça fait deux ans que chaque année, le ministère vraiment élabore ce plan de contingence-là. Avant, les inondations étaient prises en compte dans un plan multirisque. Et donc aujourd'hui, Le plan de contingence inondation là qui a élaboré, c'est vraiment un document de planification dans lequel vous retrouvez tout ce qui a trait aux inondations, des différents acteurs et à la responsabilité et qui doit faire quoi. Vraiment au sens du plan de contingence, elle a déterminé tout ce qu'il a à faire à ce niveau-là. Je voudrais dire une chose par rapport aux causes. Au Niger, il y a principalement trois causes. Hein. Il y a les causes immédiates. La saison de pluie, ça dépend de la nature de la pluie. Si la pluie elle est intense, ça peut provoquer. Il y a aussi l'occupation anarchique. Ça aussi, c'est aussi une cause immédiate. D'accord. Il y a aussi nos caniveaux là qui ne sont pas régulièrement nettoyés.
Vous avez parlé de plans, mais est-ce qu'il y a des dispositions, par exemple, prises par les concernés eux-mêmes et par les autorités?
Par rapport aux autorités, les dispositions sont prises. Oui. Ça commence d'abord par l'institution qui est mise en place pour prendre ça en charge.
Sur le terrain?
Sur le terrain.
Oui.
Du niveau national au niveau communal. Il y a des structures qui sont mises en place. Au sens, bien sûr, du plan de contingence. Du niveau national au niveau communal, qui dit qui doit faire quoi et à quel moment. Et avec des activités claires qui ont été identifiées et qui correspondent à toutes les phases de gestion d'une catastrophe, qui va de la prévention au relèvement. Des actions sont proposées, qui doivent être mises en œuvre, bien sûr, par l'ensemble des acteurs. Parce que la catastrophe, les multi-acteurs, c'est beaucoup de gens qui interviennent. Donc chacun, en fonction de là où il est, doit jouer un rôle, doit s'approprier les actions qui ont été identifiées dans le cadre de la gestion responsable des inondations. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
D'accord. Monsieur Taré, vous êtes aussi sur le terrain. Est-ce qu'il y a des dispositions prises par les concernés eux-mêmes?
Sur ce point, je ne dirais pas non totalement, mais il y a une portion, n'est-ce pas, des intéressés qui croient vraiment à ces phénomènes-là. Parce que si seulement les gens prenaient conscience du danger, c'est-à-dire lié aux inondations, beaucoup allaient être évités. Parce que la plupart des personnes touchées en cas de ces catastrophes, ce sont des gens qui vivent aux alentours, ce sont les riverains qui sont presque sur les lits, sur le passage du fleuve.
Donc la présence des hommes sur les rives favoriserait plus les inondations selon vous?
Mais bien sûr, parce que là, je parle dans le sens où c'est les gens même qui provoquent cette inondation. Si seulement il n'y avait pas ce genre-là sur le passage, il n'y aurait pas d'inondation. L'inondation, c'est quand l'eau vient de façon anarchique et inonde certaines maisons qui sont aux alentours du passage du fleuve. Là, les gens, ils savent pertinemment que ça, c'est le passage du fleuve. Et quand la crue vient, l'eau passe par là. Vous venez, vous faites des habitations, vous construisez des maisons, mais c'est normal que l'inondation vienne.
Donc, moins il y a des habitations sur le fleuve et moins il y a des inondations. C'est ce que vous essayez de nous dire.
C'est ce que j'essaie de dire.
S'il y a moins d'habitations, on pourrait éviter toutes ces inondations.
On pourrait éviter toutes ces situations-là. Mais l'inondation de l'année passée, la dernière inondation, celle de 2021, elle, c'était une inondation particulière. 2020,
Oui.
C'était une inondation particulière que le Niger n'a pas vécu, ça fait des années. Parce que c'est allé jusqu'à dans la ville, parce que c'est carrément débordé. Et ça aussi, c'est lié au phénomène de l'ensablement du lit du fleuve. C'est lié à ça. Si seulement le lit était désensablé, on aurait pu atténuer, ou bien ça aurait pu être un peu léger par rapport aux conséquences qu'on avait enregistrées.
D'accord. Monsieur Yarou, quelles sont les zones ou les régions les plus exposées au risque d'inondation au Niger?
Bon, au Niger, de manière générale, dans une certaine mesure, toutes nos régions sont potentiellement inondables. Toutes nos régions connaissent des zones qui sont potentiellement inondables. Maintenant, les régions de fleuves sont les plus touchées. Niamey, Tillabéri et puis Dosso. Vous avez par exemple Diffa, il n'y a pas le fleuve, mais il y a la Komodo Yabé. Et ils connaissent aussi les deux types d'inondations dont je faisais allusion tantôt. Là, c'est l'inondation pluvieuse et celle qui est liée aussi à la Komodo Yabé.
Hier, à Zender aussi, l'année passée à Magaria, il a été constaté une inondation. Mais comment est-ce que vous expliquez cela?
Bon, ce qui fait cela, il y a aujourd'hui, par exemple, le changement climatique. Il y a des endroits où avant il ne pleuvait pas, il pleut aujourd'hui, ça dépend, il pleut beaucoup. Et puis il y a la nature aussi du sol, qui est un facteur aussi très très déterminant dans les inondations.
Donc là, on revient au premier type d'inondation que vous nous avez dit.
Il y a d'abord la pluie souvent qui est très abondante. Il y a le fait que les gens construisent des zones inondables. Il y a le fait aussi que souvent nos habitations ne sont pas adaptées. Il y a aussi le manque d'aménagement aussi, hein, parce que souvent, vous voyez, les constructions se battent de manière anarchique. Il n'est pas prévu de voie de ruissellement. Et comme on dit en langue, la pluie, elle ne change pas de voie. Hein. Si elle doit passer sur ta maison, elle passera sur la maison. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que dès qu'il y a une quantité de pluie énorme, c'est difficile d'échapper à ces inondations-là. Il y a aussi un autre fait, quand même, que vous-même, vous, homme de médias, vous constatez avec nous. Rien que dans la ville de Niamey, les gens, souvent, bon gré ou mal gré, ils décident de boucher, par exemple, la voie de l'eau dans le quartier. On voit, pendant la semaine de pluie, chacun barricade de son côté, on ne permet pas à l'eau de passer. Et donc, du coup, vous fermez de côté de votre mur, vous inondez votre voisin. Donc, c'est des cas comme ça qu'on a un peu partout. Autant on l'a à Niamey, autant on a ce comportement aussi dans les autres régions aussi du Niger. Quoi.
On revient toujours à l'homme.
On revient à l'homme, oui. Vraiment, d'accord. Oui, tout à fait.
D'accord. Arrivez-vous quand même à intervenir dans toutes ces zones?
Non, la première fois qu'on a intervenu par rapport à une situation d'inondation, c'était en 2020, septembre 2020.
Mm-hmm.
Et ça aussi, c'était par rapport au cri de cœur qui a été lancé. Donc, on a fait un groupe de 20. On est allé pour voir si on peut assister à l'évacuation. Quoi. Donc, quand on a vu l'ampleur de la situation, on a dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc,
oui, là, on va venir à oui, vos activités.
Voilà,
là, donc, je demande si vous avez pu intervenir dans toutes les régions inondables
non.
du Niger. C'est seulement à Niamey.
C'est seulement à Niamey et ça a commencé en 2020.
En 2020.
Oui.
D'accord. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires au Niger, la région de Maradi est la plus affectée en 2021 avec plus de 12 000 ménages, soit 104 personnes sinistrées à la date du 4 octobre 2021. Qu'est-ce qui expliquerait cet état de fait, surtout qu'à Niamey, les inondations sont majoritairement observées aux environs du fleuve Niger. Alors, qu'est-ce qui fait que Maradi est en tête de la liste en 2021? Monsieur Yero.
Oui, pour 2020, certainement pour Maradi, ça s'expliquerait par le fait que la quantité de pluie qu'ils ont enregistrée, ils ont un grand courri là qu'ils appellent le Gouldi, mm-hmm. qui vraiment, quand c'est plein à son passage, ça rase tout. Et aussi, il y a le problème d'urbanisme aussi au niveau de la région de Maradi. Surtout, particulièrement la ville. Bon, heureusement, j'ai vu maintenant, c'est en train d'être rangé, mais il n'y avait pas de caniveau. Et donc, du coup, c'est difficile qu'ils échappent, malheureusement. Oui.
Les inondations extrêmes ont été un enjeu crucial pour le pays. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur le plan sanitaire et humanitaire?
L'inondation en tant que catastrophe, ça a un impact du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue sanitaire.
Humanitaire.
Humanitaire, voilà, du point de vue humanitaire naturellement. Parce que
voilà.
Si vous voyez les sinistres, les conditions dans lesquelles les gens qui perdent tout, le désordre dans lequel ils se retrouvent, ça ressemble à un drame humanitaire.
Quelles sont les conséquences que les inondations peuvent avoir sur le plan humanitaire?
Il y a des conséquences terribles par rapport à la prise en charge. Imagine, la catastrophe, elle ne prévient pas, paf, il y a un choc. Vous avez des milliers de sinistrés. D'abord, en termes même de ressources humaines, mm-hmm. il faut mobiliser pour le sauvetage.
Mm-hmm.
Ça, c'est un coup. Mm-hmm. Ce n'est pas évident qu'on puisse mobiliser toute la ressource humaine nécessaire au moment-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport aux différentes assistances, l'État seul ne peut pas. Il faut que les acteurs, les différents acteurs humanitaires qui accompagnent l'État se mettent aussi dans le travail. Et c'est pourquoi, dans le cadre du plan de contingence, vraiment, tous ces acteurs-là, ils sont partie prenante. Et l'État dit, par exemple, quand il y a des sinistrés au niveau communal, au sens du plan de contingence, en tout cas, l'État a fixé un seuil. Pour dire si dans une commune, on a de 0 à 50, vraiment, les premières assistances, c'est au maire de les prendre en charge.
Mmh.
Au niveau départemental, quand vous avez des sinistrés, enfin en termes de ménages, hein, je parle en termes de ménages, des 50 à 100 ménages, ça c'est vraiment le préfet autour de lui et son comité de gestion d'inondation, c'est à eux de faire face. Au niveau régional, quand vous avez 500 ménages à plus, ça c'est le gouverneur.
Mmh.
C'est à lui, au niveau de son comité, c'est à eux de prendre des questions à la charge. Maintenant, au-delà, ça, c'est l'État au niveau national et puis tous les acteurs humanitaires qui interviennent.
Maintenant, l'impact avec l'effet de surprise, quel impact ça peut avoir sur vos activités? Est-ce que ça vous freine ou bien vous arrivez quand même à faire ce qui était prévu?
Oui, ça nous freine parce que ça nous montre un peu nos limites. Hein. Ouais. Ça montre un peu nos limites et ça nous dit il faut encore se réorganiser, il faut encore se réorganiser, il faut encore se réorganiser davantage, il faut mobiliser beaucoup d'acteurs, il faut que cela soit la catastrophe, en tout cas qui est liée aux inondations, il faut que dans toutes nos planifications, au niveau du niveau communal, au niveau national, il faut que tous les acteurs prennent ça en charge, prennent ça en compte, pour qu'on y arrive à bout.
D'accord.
Sinon, dès que la catastrophe est là, souvent, c'est très, 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 très difficile d'apporter les réponses nécessaires.
Mais
donc, c'est ce qu'on peut, mais...
Monsieur Yaro, en amont, vous nous avez dit que l'État a pris des dispositions pour justement prévenir ces inondations. Mais comment est-ce que ça vous surprend? Je pense que vous êtes quand même prêt. Si l'inondation vient à tout moment, vous devez quand même être prêt à faire face.
Les dispositions qu'il faut prendre en amont. D'accord, d'abord la catastrophe, on ne peut que prévenir pour atténuer. On ne peut pas l'empêcher d'y arriver.
Oui, d'accord. Bien sûr.
Voilà. Aujourd'hui, tout le travail qui est en train d'être fait, surtout et notamment par rapport aux inondations, pour éviter effectivement l'effet de surprise dont je fais allusion, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Quand la météo et le service d'hydrologie, ils se mettent dans le cadre d'un comité pour dire cette année, voilà les prévisions météo-hydrologiques, on gère et qu'on identifie les différentes zones qui sont potentiellement inondables. Rapidement, on conçoit un message. Message très clair à l'endroit de ces zones-là.
De messages, traduit réponse rapide.
Voilà, dans toutes les langues. D'accord? C'est la base de simulation aussi qu'on fait, pensant que voilà, tel nombre de personnes pourraient être affectées. Pour que des réponses soient préparées au cas où la crise survient. D'accord? Ça, c'est le travail de prévention qu'on fait. Ça fait des ans qu'on le fait. On fait des messages, des sensibilisations pour dire. Voilà, faites attention, cette année, voilà ce que disent les prévisions. Mais, on est toujours confronté, malheureusement, à ce mal comportement, malheureusement, que nous confrontons chez nos compatriotes.
Monsieur Tarek, quel impact ces inondations peuvent avoir à long et à court terme sur le développement?
Les impacts à long et à court terme par rapport à...
Que ces inondations peuvent avoir sur le développement.
Sur le développement.
Oui.
D'ailleurs, ça ne peut être que sur le développement socio-économique.
Oui.
C'est clair. Quand vous prenez la situation des sinistrés de l'année 2020, à cause de ces inondations-là, c'est des gens qui ont perdu à jamais leur maison. Ils ont à jamais perdu... cette fraternité qu'ils avaient avec des gens, ils ont été cassés, retrouvés dans des zones où, même si auparavant on t'est payé, tu n'allais pas aller vivre. Ils ont perdu leur champ. Ça, c'est les impacts sur l'économie. Ça touche un peu tout le monde, en fait, les impacts. Parce que eux, oui, ça, pour eux, c'est économique parce que leurs activités génératrices des revenus, c'est les jardins qu'ils ont. Ils font des légumes, ils vendent, ils se retrouvent, ils gagnent leur vie. Certains font la pêche et tout ça. Donc maintenant, ils ont carrément quitté ces zones pour aller dans des endroits où il n'y a même pas d'eau. Et sachant pertinemment que leurs activités principales, c'est soit la pêche, soit l'agriculture. Là, c'est déjà un problème, n'est-ce pas, par rapport à l'employabilité qui est créée. Et nous aussi, si aujourd'hui on dit que s'il y avait avant cette inondation 200 jardins et qu'il y a maintenant seulement 50 qui sont en activité, il y a cette réduction d'alimentation qui est là. Peut-être que la population a une forte demande. Et que maintenant, à cause de cette réduction d'activité, il n'y a plus, possibilité de satisfaire la demande. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Ils sont nombreux que je ne peux pas énumérer de suite. Mais le problème, il est socio-économique. Et là, ça persiste. Et là, ça persiste vraiment parce que moi, dernièrement, je suis allé voir là où ils sont relocalisés. Ils sont là-bas, ils n'ont aucune activité. Ils n'ont rien à faire. Ça, c'est un problème qui a été créé, qui doit être solutionné d'office.
D'accord. Monsieur Yaro, que fait exactement le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion de catastrophes dans la prévention et la gestion des inondations?
Voilà, très bonne question. Ce que nous faisons, d'abord de par nos attributions, nous faisons la coordination. D'accord? Nous portons toute la communication qui doit être faite en termes de prévention au moment où les différents services météorologiques et hydrologiques annoncent les prévisions pour l'année en cours, pour attirer l'attention. Et au moment où au moment des inondations, ça c'est clair parce qu'au Niger, chaque année, il y aura des inondations. Peut-être qu'il y aura, enfin, ils n'auront pas les mêmes intensités. Nous faisons des messages de sensibilisation avant, pendant et après par rapport aux différentes composantes. Nous faisons aussi, comment on appelle ça, de l'assistance en vivre ou en kit NFI et bien non alimentaire. Et c'est en collaboration avec la direction de la protection civile. Chaque fois que vous avez des inondations, des sinistrés, ils vont sur le terrain, c'est eux qui recensent et ils font il faut remonter toutes les informations qui sont liées, en tout cas, aux inondations, des premières inondations jusqu'à la fin de la saison de pluie. Chaque lundi, on fait une mise à jour des données. Les données là que OCHA a données, OCHA est aussi partie prenante, elle participe régulièrement à ces réunions des comités qui se tiennent tous les lundis. Et donc, en un mot, nous faisons l'expression des besoins en termes d'assistance. Et donc, comme vous savez, l'État, les services, c'est une complémentarité qu'on donne à qui des droits, d'ailleurs notamment à la primature, qui instruit l'OP20, parce que partout, les distocks sont positionnés au niveau des régions et au niveau des départements, pour qu'on puisse passer à donner l'assistance aux sinistrés. Voilà, grosso modo, comment un peu les choses se font. En termes de préparation, en tout cas chaque année par rapport aux inondations.
Oui. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec le ministère chargé de l'environnement?
Oui, nous travaillons avec le ministère en charge de l'environnement dans le cadre des comités que nous avions. Voilà. Mais sinon, eux, c'est une institution de la République aussi en part entière. Ils ont leur catastrophe à eux. Qu'ils gèrent où ils sont comptables, par exemple, par rapport à la sécheresse.
D'accord.
Mais voilà. Maintenant, quand on va au-delà où il y a des assistances qu'il faut donner, des choses comme ça, ça, c'est le ministère qui assure ça.
J'aimerais que vous nous reformulez. Est-ce que oui ou non, vous travaillez avec ce ministère?
Oui, mais bien sûr. Oui, d'accord. Nous travaillons
donc,
avec
comment,
ce ministère.
Oui. Comment est-ce que vous vous y prenez?
Oui, la collaboration, elle s'est faite dans le cadre des différents comités que nous avions du niveau national, au niveau déconcentré. Vous savez, toutes ces différentes institutions-là, ils ont des services au niveau départemental, au niveau régional et puis au niveau communal. OK? Ce que je disais, dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre du plan de contingence inondation, tous ces ministères-là, notamment le ministère de l'Environnement, ils sont aussi acteurs. Ils prennent part aussi, voilà, dans le cadre de comités. Donc, c'est comme ça notre collaboration avec eux. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Monsieur Tare, quelles sont vos activités principales de la gestion des inondations?
Nos activités principales, nous, quand il y a inondation, on fait aussi des activités bien avant qu'on est en train d'initier parce que nous avons compris qu'il y a un problème de sensibilisation qui est là. Donc maintenant, on est en train de voir dans quelle mesure commencer des sensibilisations pour informer ou bien pour rappeler aux gens parce qu'ils le connaissent, ils connaissent déjà les dangers par rapport à comment s'y prendre pour qu'ils ne soient pas pris dans le piège des inondations comme les années précédentes. Donc, par rapport aux activités que nous menons quand il y a inondation, on fait d'abord un premier travail d'évacuation s'il y en a. On fait l'évacuation et maintenant on fait de quête. On lance des quêtes en nature, en espèces pour venir en aide à ces sinistrés qui sont dans les besoins. Donc l'année 2020, ce qu'on a fait, on a fait un stand pendant un mois. Et à la fin de chaque semaine, pendant 4 semaines, à la fin de chaque semaine, on amène ce qu'on a eu, ce qu'on a collecté pendant la semaine. On amène, si c'est de la nourriture, si c'est des trucs en espèces, des habits. Et chaque jour, on amène de l'eau et de nourriture déjà préparée aux sinistrés. Et nous avons aussi parmi nous des médecins qui font la prise en charge médicale. Puis voilà.
Vous avez pu venir en aide à combien de personnes sinistrées en 2020 où vous avez commencé et en 2021, si on peut avoir un bilan?
En tout cas, nous avons fait presque tous les sites des sinistrés. Je n'ai pas de chiffres exacts.
Environ?
C'est des milliers qu'on a touchés. Parce que c'est que par jour, on peut amener 500 packs de piawata. On peut amener 100 ou 200 rations de nourriture déjà préparée. Et quand on part sur un site, on fait en sorte que tout le monde soit bénéficiaire. Tout le monde... que tout le monde bénéficie de ce qu'on a amené. Donc, quel qu'en soit le nombre de personnes qu'il y a sur le site, on fait en sorte que... C'est pour cela qu'on bloque toute une semaine pour collecter et puis on fait la répartition en fonction... En amont, on fait un ciblage du site sur lequel on va faire le don. Après le ciblage, on fait la répartition par ménage. Donc, on fait en sorte que tous ces ménages-là soient touchés, tous ces ménages-là bénéficient de ce qu'on a amené. Donc, si, à supposition, le grand frère peut m'aider avec le chiffre à registrer des sinistrés de l'année 2020,
les deux dernières années,
notamment celle de 2020, je peux dire qu'on a touché 80% des sinistrés.
D'accord. Avez-vous des partenaires financiers dans ces actions?
Oui, les partenaires, c'est des personnes particulières. C'est des personnes particulières. L'État nous a jamais aidés, bien qu'eux aussi, ils ont leur canal d'assistance qui est là, le ministère de gestion des catastrophes naturelles. Mais nous avons des personnes particulières, des entreprises privées qui viennent, qui nous aide, qui nous appuie en logistique le plus souvent. Et j'ai oublié, il y a la caisse, la CNS, qui a mis à notre disposition un pick-up avec lequel on fait la navette s'il y a de l'eau et beaucoup d'autres entreprises particulières qui nous ont aidé aussi dans la logistique. Une zone de voiture avec lequel on achemine ce qu'on a collecté quand il y a don à faire.
D'accord. Là, c'est une question pour vous deux. Pour que le budget puisse être à la hauteur, comment est-ce que vous vous prenez pour éviter les doublons? Je parle de doublons, par exemple, une famille qui a déjà bénéficié de dons. Comment est-ce que vous vous y prenez pour que cette même famille ne revienne pas un autre jour vouloir récupérer un kit? Comment est-ce que vous vous y prenez? On commence par vous, monsieur.
Oui. Bon, justement, comme on dit, quelqu'un qui veut de ta chose, il est plus malin que toi. Mais en réalité, par rapport aux sinistrés, nous, on procède au recensement. Il y a des listes. Tous les ménages sont recensés, chefs de ménage. D'accord? Pour éviter les risques de doublons, on vous dit. Donc, quand, par exemple, ils sont localisés sur un site donné, on sait combien de ménages il y en a sur le site. À peu près le nombre de personnes. D'accord? Et il y a une organisation aussi à l'interne au niveau des différents sites avec des délégués. OK? Donc, une fois que l'aide de l'assistance est acheminée, c'est avec l'aide de ces différents comités qui sont mis en place que la distribution se fait. Donc, eux-mêmes, ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Parce que quand quelqu'un a deux fois, ça veut dire qu'il a pris la part de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est à peu près, en tout cas, c'est comme ça que le travail est organisé. Mais bon.
D'accord. Et vous n'avez jamais fait face à des cas de doublon?
Bon, des cas de doublon, à notre connaissance, non. Mais souvent, il arrive que vous entendez ça et là, on a donné doublon par-ci par-là. Mais de manière très flagrante quand même, non.
Et chez vous, Monsieur Taré?
Ça, c'est une situation qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que parmi les sinistrés, tu vas voir, il y a des gens qui ont, comment on appelle, qui sont arrêtés sur ces sites, qui sont arrêtés sur trois sites en même temps. C'est des personnes qui sont là, ils ont fait des same business. On ne peut pas gérer. Mais c'est ce qu'on fait pour éviter cela. C'est, on fait le ciblage, on fait l'enregistrement de tous les ménages avec le nom des chefs de famille. Voilà. Mais tu ne peux pas comprendre s'il est vraiment... C'est des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas maîtriser, mais on évite au maximum pour qu'il n'y ait pas de doublon. On sait que si on te donne le nom là, si on lui donne, on ne va plus jamais lui donner. Point. C'est fini. C'est comme ça qu'on procède. Mais le doublon... ou même tripler, ça peut arriver sans pour autant que tu le saches.
D'accord.
C'est compliqué.
La Banque mondiale finance le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain au Niger. Principalement, quelle est la cible de ce projet et dans quelle zone, monsieur
Yao? Oh, oui, bon. Bon, pour le peu que je sais, après les inondations de 2020, qui étaient quand même inédites au Niger, donc, à travers le PGFEDEI, l'État du Niger a élaboré ce qu'on appelle les MRI, les mécanismes de réponse immédiate. Donc, là, à ce niveau-là, ils sont intervenus sur l'ensemble du pays, hein, dans toutes les régions du Niger.
D'accord. Voilà. Quel est donc le plan d'action du gouvernement du Niger en matière de gestion de l'information et du système d'alerte précoce?
Bon, moi, je me dis que le gouvernement a bel et bien un grand plan d'action.
Lequel?
J'allais faire allusion aux différentes institutions. Parce qu'un plan d'action n'est rien d'autre qu'un document où il y a différentes actions.
Oui.
Ok, aujourd'hui, vous avez fait allusion au SAP, le système d'alerte précoce, qui existe il y a plus d'une vingtaine d'années, qui est au niveau de la primature, qui fait ce qu'elle doit faire. Et aujourd'hui, quand on prend pour le cas spécifique, par exemple, des inondations, il y a le ministère de l'action humanitaire qui lui dit cela. Et qui. Ça donne à élaborer chaque année, j'ai dit encore une fois, un plan de contingence inondation pour une année. D'accord? Qui fixe des objectifs.
Pour chaque année?
Chaque année. D'accord? Par exemple, pour l'année 2021, ça court. Ça prend fin en juillet 2022. Donc, d'ores et déjà, c'est le lieu de commencer la préparation du plan de contingence inondation 2022. Et ce plan-là, comme je l'ai dit, il est multi-acteur. Tous les différents ministères, du ministère des Affaires étrangères au plus petit ministère s'il y en a, ils sont acteurs. Donc, c'est vraiment un document national qui est validé en conseil de ministres, donc qui fait foi. Où tous les ministres, chacun en fonction de là où il est, c'est qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que par exemple, par rapport à la catastrophe, vous savez, il est multidimensionnel. Tout de suite, on a parlé de, par rapport au cours des inondations, la question d'urbanisme. Ça, c'est notre ministère, c'est notre volet. On a parlé des gens qui ont été relocalisés au niveau de voilà, ça, c'est encore un autre ministère pour donner le terre. Tout ça là. Et donc, tout ce beau monde-là se retrouve dans le cadre d'un document de planification qui fait foi. Et que ce document-là, il est porté par le ministère de l'Action humanitaire, de l'Action de catastrophe. Voilà.
D'accord. Mais est-ce que ce plan permet d'améliorer la gestion de la connaissance des risques et de développement des procédures opérationnelles pour le système d'alerte précoce?
Oui, mais bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Si toutes les actions qui ont été identifiées et qui concourent à réussir la phase de prévention en termes de catastrophe. Si tous les acteurs jouent leur rôle, toutes ces actions-là qui ont été identifiées, ça et là, dans le cadre des comités d'élaboration, ce travail est fait. C'est sûr qu'à la fin, quand on aura évalué, on verra que ça aura apporté quand même un impact très significatif.
D'accord. Voilà. Ce système d'alerte précoce vous aide-t-il aussi dans vos activités de la gestion des inondations?
Oui, bien sûr, c'est grâce au système d'alerte qu'on est informé s'il y a un risque, n'est-ce pas, d'inondation, ou bien si... Parce que ça avance. L'inondation, c'est-à-dire, c'est progressif en fait. Si ça quitte le Mali. Comment on appelle ça, la plupart du temps, si c'est une inondation, des crues. Donc ça vient du Mali. Dès que ça traverse nos frontières, normalement, le gouvernement doit être informé et informer la population qu'il y a un risque d'inondation à l'horizon. L'eau est en train de venir, comment on appelle ça, de façon forte. Donc les gens doivent prendre leurs précautions. Donc c'est en fonction de cela que nous aussi, nous nous préparons en cas des éventuelles inondations, s'il y a des actions à faire, s'il y a des, comment on appelle ça, d'interventions d'urgence à faire. Et puis voilà, on se prépare à cela.
D'accord. Nous sommes presque à la veille de la saison des pluies. Avez-vous déjà mis en place un dispositif pour prévenir d'éventuelles inondations, M. Yaro?
Oui, les dispositifs, ils sont déjà là. Il y a déjà un dispositif qui existe. D'ailleurs, avant même l'avènement du ministère, il y a un dispositif qui est là. Maintenant, l'avènement du ministère vient regarder le dispositif. Maintenant, désormais, on sait que à partir du mois de mai, si je me réfère à ce qui s'est passé l'année passée, toutes les structures, les services qui sont acteurs par rapport aux inondations, ils se retrouvent autour du ministère de l'Action humanitaire. Chacun dit, voilà les différentes prévisions. Et comme ça, des orientations sont données, des consignes sont données pour déjà commencer à élaborer. Là où il y a des messages de sensibilisation qu'il faut faire, il faut le faire. Pour préparer les réponses éventuellement en cas de inondations. Voilà. Donc ce travail, il est fait. On le fait au quotidien. Et ça, on est dans la période. Et ça va se faire pour cette année aussi.
D'accord. Il y a une doctorante à l'université de Niamey qui a réalisé une cartographie numérique des zones inondables de Niamey, qui selon elle pourrait contribuer à la gestion des inondations. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec cette cartographie?
Franchement, nous non.
D'accord.
Non. Mais par contre, il y a une cartographie qui a été réalisée par le gouvernement des zones les plus inondables. Donc, qui a été publié sur toutes les plateformes du gouvernement et même à la télé. Donc, c'est en fonction de cela qu'on connaît, n'est-ce pas, les zones qui sont facilement inondables, les zones qui sont susceptibles d'être inondées dès qu'il y a, comment on appelle ça, des fortes précipitations ou s'il y a une forte crue.
D'accord. Et vous, M. Yaro?
Oui, je sois. En fait, c'est vraiment la même idée que ce que dit mon
vous
frère.
Vous ne travaillez pas avec la cartographie de la doctorante?
Non, pas l'idée là. L'idée de Roux, bien sûr que nous travaillons. La cartographie, c'est un outil. C'est vraiment un outil d'aide à la décision.
D'accord.
Et d'ailleurs, toujours dans les cadres des préparatifs, par exemple, je me réfère à l'année passée 2021, dans les instructions qui nous ont été données, il fallait produire la cartographie des zones qui sont potentiellement inondables pour l'année 2021 au regard des différentes prévisions. D'accord? Ça a été fait. D'accord? Ça a été partagé, comme il l'a dit. Ça a été diffusé sur Télé Sahel. D'accord? Donc, à Zender, on sait à peu près. Voilà les départements qui sont susceptibles d'être inondés. À Dosso, on connaît à peu près. Gaïa, à peu près, on connaît sur la
D'accord.
Donc, voilà.
D'accord. Quelle ambition, afin que le Niger puisse réduire de façon significative sa vulnérabilité structurelle aux catastrophes naturelles, les inondations, cas des inondations, quels sont les défis à relever et quel appel est-ce que vous lancez à la population nigérienne pour venir à bout de ces défis? Monsieur Yaro.
Wow. D'accord. C'est une très, très bonne question. Moi, je me dis encore une fois, sans être l'avocat de l'État, l'État est sur la bonne voie. D'accord? Tu as dit, bon, voilà les orientations, voilà les pistes à suivre. D'accord? L'État met des institutions, on donne des orientations, on donne des plans, mais n'a quitte à l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que chacun joue son rôle, conformément à ses attributions, par rapport à une catastrophe ou par rapport à une situation donnée.
D'accord.
Maintenant, pour le cas des inondations, la difficulté qu'on a, c'est que, comme on dit, notre population, les gens ont plus ou moins la dent dure. Les gens sont souvent un peu difficiles. Vous vous rappelez, un passé récent, les mêmes gens, c'est eux qui sont inondés chaque année. Avant 2020, là où aujourd'hui il y a une relocalisation en masse, quand même, il y a plus de 1000 ménages qui ont été relocalisés, on a donné quand même une parcelle à chacun. Et j'avoue, l'État fournit des efforts gigantesques. pour que l'endroit-là soit viable. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a de l'eau, il y a de la terrain ont été construits. En tout cas, l'État est en train de faire tout pour mobiliser des partenaires
pour ce que, défi.
Pour, mm-hmm. Voilà.
D'accord. Et quel appel lancez-vous à la population nigérienne?
L'appel que je vais lancer à la population nigérienne, il faut que nous changeons de comportement. Il faut qu'on apprend à être positif. D'accord? Mm-hmm. Il faut que quand les différents services étatiques, quand on nous dit qu'il faut déguerpir de cet endroit, il faut qu'on accepte de le faire. Et il faut que l'État aussi joue pleinement son rôle. Vous savez, l'État du Niger, en 2017, déjà a pris une loi, a fait voter une loi interdisant la construction dans les zones inondables au Niger.
D'accord.
Maintenant, le décret d'application, pour que cela soit suivi. Mm-hmm. Jusque-là, ça souffre, ça n'a pas encore été fait. Okay? Et ça, ce n'est pas le fort d'une seule action humanitaire. Mm-hmm. Ça, c'est encore un autre ministère, oui, tel qui doit faire ce travail-là.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, d'accord, il faut que chacun joue son rôle. De l'État, des patrons de en haut là, à nous autres, les citoyens lambda, avec votre contribution, vous aussi, les hommes de médias, vous pouvez apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide pour nous dans la sensibilisation.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et vous, Monsieur Tarek, quelle ambition pour que le Niger puisse réduire de façon significative sa vulnérabilité structurelle aux catastrophes naturelles? Quels sont les défis à relever et quel appel lancez-vous à la population nigérienne, selon vous?
Vous savez, les défis là, ont toujours été là, hein, ils n'ont pas changé de nature. Et par contre, ils ne font que se regardir parce que rien ne fait par rapport à cela jusqu'à présent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Mm-hmm. Quels sont ces défis?
Les défis, d'abord, le défi le plus important, c'est celui du désensablement du fleuve. Ça, si l'État ne le fait pas, je vous dis, ce n'est pas un souhait, il y aura toujours inondation. Parce que l'eau ne va pas cesser de venir. Il y aura pas, la crue ne va pas s'arrêter. Si le lit du fleuve est ensablé, c'est-à-dire sa capacité de contenir, n'est-ce pas, l'eau qui vient, il y aura toujours débordement. Ça va toujours couler dans la ville et ça va toujours avoir, comment on appelle ça, des conséquences par rapport à la vie des riverains. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à l'appel que je vais lancer à la population concernée, c'est de vraiment éviter de construire dans les zones facilement inondables. Et tout le monde les connaît, ça fait des années, on les chasse, ils reviennent, on les chasse. Sauf que pour l'année 2020, semble un peu marcher parce que les gens ne sont pas revenus. 70% des gens qui ont été relocalisés sont restés là-bas. Bien qu'il y a encore des gens qui sont revenus sur le lit là pour continuer à vivre.
Mm-hmm.
L'État doit prendre ses responsabilités. Quand on empêche aux gens de construire, il faut créer toutes les conditions pour qu'ils ne construisent pas. Grand frère vient de dire qu'il y a une loi qui a été, comment on appelle ça, votée
en 2017.
Mmh. Mais cette loi est toujours suspendue à l'air, sans aucun degré d'application. Cela veut dire qu'on a dit qu'il, bon, voilà, une loi a été votée pour que les gens ne construisent pas sur les zones inondables, mais elle n'est pas mise en application. Cela veut dire qu'elle n'existe pas si elle n'est pas appliquée. Oui, elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Donc, si tu peux aller construire là où on a interdit, là où on a dit qu'on a interdit de construire, sans pour autant que tu sois arrêté parce que ce n'est pas un délit.
Mmh.
La loi n'est pas appliquée. C'est-à-dire quand l'État fixe une façon de faire les choses. Donc, il faut manu militari mettre en application cette procédure et faire respecter cette procédure. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut venir à bout ou bien à terme de cette situation d'inondation-là.
D'accord. En résumé, dans notre discussion, la prévention des catastrophes naturelles cas des inondations a d'autant plus d'importance que la confrontation des systèmes naturels et des systèmes humains. Elle générera de plus en plus compte tenu de l'importance croissante que jouent les hommes, en particulier urbains. Des enjeux tellement considérables que le développement global des sociétés peut être durable, gêné, voire arrêté pendant de nombreuses années. Nous sommes au terme de ce forum. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de M. Tahere Daouda, jeune volontaire du Niger, en compagnie de M. Ali Yero du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La protection civile devrait aussi être avec nous, mais n'ont pas pu envoyer de représentants. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'était Rafika Taher à la présentation, à la technique Mustapha Ayouba, à la régie vidéo Issa Lawali. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum du studio Kalangou. Excellente soirée à vous et au revoir.